Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon midi à tous et bienvenue à Hors-jeu. Exceptionnellement, cette semaine, je serai seul. Et qui dit semaine de relâche qui arrive, dit aussi examen intra. Donc, mes collabos sont tous occupés malheureusement aujourd'hui. Mais n'ayez crainte, nous aurons tout de même un programme chargé. Donc, avant de passer en revue les résultats de nos équipes du Verre et Or, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le coach en chef de l'équipe de foot, Kevin Régimbald, ainsi que le coordonnateur défensif, Guillaume Boucher, avant le match vendredi dernier. Voici donc la première entrevue dans son intégrale que j'ai fait avec le coach Régimbald. Parfait. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. J'ai discuté un peu avec le coordonnateur défensif un peu plus tôt ce matin. Puis, on comprend que le moral des gars est très, très bon en ce moment. Il a aussi mentionné le temps supplémentaire passé sur le terrain par les gars cette semaine. Donc, qu'est-ce que vous avez priorisé cette semaine pour vous préparer pour le match de ce soir?
Ben, c'était de mettre l'accent sur les petits détails qu'on a peut-être moins bien fait là, dans les dernières semaines, notamment dans la dernière semaine. Fait que c'était d'adresser les petits problèmes techniques et tactiques avec lesquels on a peut-être eu de la difficulté, puis de s'assurer de corriger le tir là, pour le match de ce soir. Fait que c'était axé vraiment sur ce volet-là là, qu'on a mis un petit peu plus de temps, que les étudiants athlètes ont mis un peu plus de temps pour s'assurer d'être prêts pour ce soir.
Parfait. Ça, je vais faire du pouce un peu sur ma première question. Justement, défaite difficile la semaine dernière, défaite crève-cœur qui aurait pu être évitée. Mais qu'est-ce que vous avez retenu au final de ce match? Il y a eu des bons coups, il y a eu des mauvais coups. Qu'est-ce que vous comptez changer ce soir pour obtenir un meilleur résultat?
Je pense que le plus important, c'est de rester dans le moment présent. Tu sais, je pense qu'au cours du match, on a très bien débuté le match la semaine passée. Puis à certains moments, la concentration a glissé quelque peu. Puis là, on a commis des erreurs qui, dans le reste du match, n'ont pas été un facteur. Fait que ça, pour nous, ça va être hyper important. De l'autre côté, c'est sûr et certain là, que tactiquement, on a modifié un petit peu les choses qu'on allait faire en fonction de l'adversaire qu'on a ce soir. Mais je pense que c'est surtout là, la manière dont on va se présenter, la manière dont on va réagir dans le match qui va nous permettre d'aller chercher un résultat positif ce soir. Fait que c'est surtout sur cette avenue-là qu'on a travaillé.
Parfait. Justement, le coordonnateur, j'avais posé la question par rapport justement au game plan un peu, puisqu'on s'attend à affronter un Loi La Tendresse Régimbald qui court beaucoup, qui est très mobile. Donc, j'imagine que le game plan va être sensiblement focus sur le carrière qu'on va faire face ce soir.
Certainement, on est très au courant. Je pense que tous les gens qui l'ont vu jouer là, dans les dernières semaines, c'est un carrière qui est excellent, autant avec son bras qu'avec ses jambes, il est capable d'aller chercher des verges. Donc oui, on le traite avec beaucoup de respect. On s'est préparé là, en fonction de l'affronter. Puis on doit limiter autant au sol que par les airs là, les gains qu'il peut aller faire. Donc là, on est très conscient de la tâche qu'on a devant nous, mais je suis convaincu qu'on a un bon game plan pour l'empêcher d'aller chercher toutes ces verges-là.
All right. Puis c'est un match très important aujourd'hui, un match à ne pas perdre, évidemment, si on veut encore faire les séries. Compte tenu justement de l'importance de ce match, qui est probablement la dernière porte d'entrée, c'est quoi le message que vous avez fait passer aux gars cette semaine?
Bien, encore une fois, c'était de ne pas se concentrer sur l'enjeu du match de ce soir. Mm-hmm. Je pense pas que c'est un match à ne pas perdre. Je pense que c'est un match à gagner. Puis c'est là où, justement, dans la préparation, je veux pas qu'on ait la crainte d'échouer ou la peur de faire des erreurs, mais plutôt une confiance qu'on est en mesure d'aller là-bas et de les battre. Puis ça, pour moi, c'était hyper important. T'sais, lorsque l'enjeu devient trop grand, là, le stress peut augmenter puis ça peut nous mener à avoir des contre-performances. Puis c'est justement ce qu'on veut éviter. T'sais, on veut que tout le monde reste dans le moment présent puis que tout le monde continue à travailler là, de la première jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est un petit peu ça. Pour le reste, pour ce qui est de l'enjeu puis de la gestion de match, ben, t'sais, ça, je le mets vraiment plus dans les mains des entraîneurs. T'sais, puis dans la façon dont on va appeler le match, la façon dont on va diriger le match. Oui, ça va être en fonction d'aller chercher là, la victoire que ça nous prend pour ce match-ci. Mais pour les joueurs, c'était vraiment beaucoup plus dans leur préparation, de comprendre que ce qui était important présentement, c'était de se préparer à un très gros match, puis aujourd'hui de se présenter à ce match-là, puis ensuite de bien réagir tout au long du match en fonction là, en fonction de ce qui va arriver. Nonobstant de ce qui va arriver, de continuer à avoir là, une attitude positive, puis à travailler fort, puis à se concentrer sur chacune des répétitions. Fait que c'est vraiment ça qui a été mis de l'avant, au plutôt que de seulement parler de l'enjeu.
En vous entendant parler, je comprends très bien pourquoi les gars sont hyper motivés en ce moment. Le football, c'est un sport d'équipe. Certes, mais il y a certains joueurs d'impact au sein de l'équipe qui se démarquent autant en défensive qu'à l'offensive. Si je parle ici notamment de Jonathan Martel-Joseph, William Marchand, Léo Roy, Édouard Boivin, Étienne Bouffard, Justin Marsan. Qu'attendez-vous de l'apport de ces gars-là, les joueurs d'impact pour le match de ce soir? Parce que c'est sûr, ça va nous prendre un game changer.
Certainement. Ben, tu sais, c'est de justement d'être intense puis de mettre de l'effort à 100% tout le temps. Tu sais, ce qu'ils ont fait que présentement, c'est des joueurs d'impact dans notre équipe. Tu sais, les noms que tu as nommés, c'est tous des joueurs qui sont rendus à avoir cette opportunité-là de faire des jeux. Il reste que, premièrement, tu dois gagner ton poste puis ensuite arriver sur le terrain. Puis après ça, ce qui fait que tu fais des jeux, ben, c'est de faire la responsabilité que tu as, mais de la faire à 100%. Puis c'est ça qui gage le succès. T'sais, quand tu es en mesure de répéter cet effort-là puis de répéter les bonnes décisions que tu prends dans un match, les jeux vont finir par venir à toi. Puis plutôt que, encore une fois, avec l'enjeu du match, d'essayer d'en faire trop, ben là, on sort de notre rôle. Puis là, à ce moment-là, ben on n'a pas le meilleur de chacun des individus. Fait que ce qu'on veut, c'est vraiment continuer à faire ta responsabilité, fais ton petit 12e, puis à l'intérieur de ça, fais-les à 100% d'effort, puis là, on va réussir à avoir des bons jeux. Ce qu'on s'attend à eux, c'est que oui, ils élèvent leur jeu, mais pas en essayant d'en faire trop, mais en ayant 100% d'effort, en terminant chacun des jeux, puis de le faire là, vraiment du début jusqu'à la fin.
Oui, ça va être important, justement, toujours aller chercher le deuxième effort, comme vous avez mentionné, puis de finir nos plaqués aussi, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, on a eu un peu plus de misère à finir nos plaqués, notamment sur le corps arrière. Donc, on réussit à mettre beaucoup de pression, la ligne défensive, sur le corps arrière, mais on réussit pas toujours à finir le jeu, à aller chercher les sacs du corps. Donc, certainement, j'imagine que ça va être super important ce soir-là.
Effectivement, d'autant plus, encore une fois, avec le corps arrière, là, on sait que Eloi est un très bon joueur pour faire manquer les plaqués. Puis d'ailleurs, il nous l'avait fait sur notre terrain lors du premier affrontement.
Ouais.
Ben, oui, on a mis une attention particulière. Les joueurs ont fait là, des approches aux plaqués et des plaqués pour chacune des pratiques qu'on a eues cette semaine. Donc, on veut s'assurer que c'est un élément sur lequel on s'améliore cette semaine. Puis ils sont très conscients de ça. Maintenant, oui, là, c'est le temps de le faire sur le terrain.
Parfait. Puis ma dernière question, une question un peu plus d'ordre, je dirais pas négatif, mais plus une question advenant une autre défaite ce soir. Puis une exclusion des séries éliminatoires, c'est vraiment juste un scénario hypothétique. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des changements dans l'alignement pour le dernier match de la saison? Peut-être un changement au poste de corps arrière, sachant que Samuel Goulet-Ménard a offert des très bonnes prestations dans les rangs collégiaux. Est-ce que ça pourrait potentiellement être une possibilité?
Je vais être 100% honnête avec toi. Présentement, notre tête n'est pas du tout là. Notre tête est vraiment... Il y a encore un espoir. On veut se battre jusqu'à la fin. On a la chance, là, je vais dire que c'est une chance, que la semaine prochaine, on est en bye week. Donc, on va vraiment se laisser la semaine là, de congé pour réévaluer comment on va approcher le dernier match dans cette situation hypothétique-là. Mais on espère vraiment ne pas avoir à faire cet exercice-là puis de continuer à se battre là, pour avoir une place en série.
C'est exactement la réponse à laquelle je m'attendais. Un gros merci, coach, et je souhaite très bonne chance ce soir. On est avec vous, on vous supporte et allez la chercher, s'il vous plaît.
Un gros merci, puis on va faire tout en notre pouvoir pour aller la chercher, effectivement.
Parfait. Ben, bonne journée, bonne soirée et bonne route.
Merci, toi aussi, là. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Donc, au terme de cette entrevue, bien évidemment, l'équipe de football du Verrier a écouté leurs entraîneurs parce que quelle victoire nous avons eu droit vendredi dernier. Et j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus en détail après la pause parce que j'espère sincèrement pas avoir été prophète de malheur pour Jérémy Fife en posant la question à l'entraîneur-chef si on allait voir un certain changement au poste de corps arrière, car malheureusement pour Jérémy Fife, il a été victime d'un contact très salaud à la tête en fin de première demi. Et ben malheureusement pour lui, c'est Samuel Goulet-Ménard qui est venu en relève et ce fut une incroyable performance pour Samuel Goulet-Ménard. Et sur ce, je vous laisse en pause et on se revoit tout de suite après. Donc, comme j'avais mentionné en début d'émission, j'avais aussi eu l'occasion d'avoir une entrevue avec le coordonnateur défensif Guillaume Boucher, qui... Et justement, là, il m'a parlé beaucoup du match contre Concordia, lequel le Varior avait subi une défaite assez difficile puisqu'on menait par la marque de 24 à 13 encore à la mi-temps. Donc, je vais vous faire entendre cette entrevue avec le coordonnateur défensif qui avait l'air très excité pour le match contre McGill vendredi dernier.
Donc, on va commencer. Considérant la défaite Crève-Cœur du dernier match, est-ce que vous êtes en mesure de me dire où se situe le moral d'équipe à quelques heures d'affronter les Redbirds?
Notre moral est excellent. On est vraiment une semaine à la fois. On est en mission d'aller battre les Redbirds par quatre. Donc, ils nous ont battus par trois. On les bat par quatre. Puis, tout est encore possible. Donc, c'est un moral de feu qu'on a.
Parce que là, justement, si on réussit à battre McGill par 4 points, puis on réussit miraculeusement à aller chercher une victoire contre le Rouge et Or dans 2 semaines, les séries seraient encore...
On a besoin d'aide. Il faut qu'ils perdent leur dernier match.
C'est ça. Parce que même avec une victoire contre le Rouge et Or, les séries seraient pas possibles.
Absolument. OK. Absolument. Mais ça va se régler dans la même semaine qu'on joue le Rouge et Or.
Ouais, ça.
Donc, on gagne demain par 4 et plus. Puis à partir de là, notre dernière semaine veut dire quelque chose. Donc, c'est pour ça que le moral est vraiment dans le tapis. Hein. Cette game-là, si on perd, ben là, on est complètement sorti. Notre dernière game ne voudra plus rien dire. Donc, en gagnant par 4 ce soir, ben tous les espoirs sont encore permis, puis c'est là-dessus qu'on est accroché, puis c'est là-dessus que notre focus est.
Donc, justement, ça va prendre un très gros match là, contre McGill, si je comprends bien.
Exactement. Écoute, on a eu une semaine de pratique incroyable. Des gars investis, des gars motivés, on a fait du surplus, donc on a fait de l'overtime après chaque pratique qui venait des capitaines. Je suis vraiment, vraiment fier de nos troupes là, de cette semaine.
Parfait. Je vais me concentrer un peu plus sur l'unité défensive pour la suite. Là. Les gars peuvent se consoler d'avoir terminé le dernier match avec plusieurs revirements pour la défensive, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour limiter le nombre de points contre à chaque match?
Ben écoute, troisième essai. On va commencer par le début. Si on focus sur le dernier match, à partir du quatrième quart, on avait donné aucun touché. Puis, c'est le coach en chef de Concordia. On est par 13, donc il a donné le go call à Justin Chapdelaine d'aller sur 3 essais. Puis, on est 0 en 5 en third down. Donc, ça s'est joué là. Tu as 5 opportunités d'avoir un takeaway. En français, on va dire un revirement. Donc, dans un match de football, dans le fond, là, les stats avancées des 10 dernières années démontrent que si tu as 3 turnovers, tu gagnes 65% de tes games. Puis à partir de 4 turnovers, ça monte à 85 et 90%. Donc, on est allé chercher 3 interceptions. Donc, on venait déjà de faire virer les odds à 65% de chance de gagner une game de football. Et on a eu 5 opportunités d'aller en chercher un quatrième, un cinquième, un sixième dans des third down conversions qu'on a passé à des pouces. On a un troisième et 2 qui sont allés chercher 3. Un troisième et 4 qui ont fait une passe pour un toucher. Ils sont allés en troisième et 4 dans le green zone. Puis la balle a été touché à la ligne de mêlée. Écoute, les 5 third downs qui sont allés, il n'y en a pas un qui a été complété facilement. Donc, toujours un demi-défensif sur le dos. Des gros catchs. Au bon moment, je lève mon chapeau, honnêtement. Ils ont sorti leur meilleur football en troisième essai. Mm-hmm. Donc, cette game-là ne touche par un. On pourrait être assis là, toi puis moi, ensemble, puis te dire, hey, 6 turnovers, on a gagné par 14, ben, c'est des third down.
Ouais.
Aussi simple que ça.
Parfait. Puis justement, pour la suite, c'est quoi les points positifs et négatifs de l'unité défensive cette saison? T'sais, moi, j'ai remarqué qu'on a beaucoup de QB pressure. T'sais, la ligne défensive est souvent capable de se rendre jusqu'au corps arrière, mais on a tout de même de la misère à aller chercher des sacs. Puis justement, les QB pressure, ça se voit pas nécessairement sur la feuille de statistiques.
Tu touches au plus gros point négatif. Notre habileté d'avoir fini, notre habileté de finir nos jeux. Puis c'est vraiment relié à notre approche de plaqué, notre position de pied et, en français, encore une fois, notre wrap. Donc, on amène ton... En français, c'est dur à dire, un wrap. Le positionnement de nos pieds et comment est-ce qu'on réussit à aller entourer le ball carrier avec nos mains, le porteur de ballon avec nos bras. Donc, c'est tout des termes anglophones, par contre. Je suis là à te l'expliquer en français, mais tu sais, dans notre tackling technique, on a un manque présentement. Fait que c'est le point négatif. Donc, on se doit de continuer à bien peaufiner notre technique de plaqué et surtout notre approche au plaqué. Contre McGill, week 2, on a eu 9 occasions de plaquer le carrière behind the line of scrimmage, donc en arrière de la ligne de mêlée, et on est 1-9. La semaine passée, il y a 2 semaines, Concordia, quand ils ont joué contre McGill, ont eu 7 occasions, donc 2 de moins que nous, puis ils en ont eu 5 sur 7. Laval ont eu 8 occasions de le plaquer en arrière de la ligne de mêlée, en ont eu 6 sur 8. Donc, c'est vraiment, leur approche présentement sont un petit peu plus constantes que la nôtre. Puis nos joueurs sont très, très, très au courant de ce défi-là. On le travaille excessivement fort en pratique, puis ça va définitivement payer ce soir.
Bien, c'est ça que j'allais demander, justement. Tu sais, j'imagine que les bonnes techniques de plaqué, ça, vous avez mis beaucoup l'emphase sur ça cette semaine afin de terminer les jeux.
Depuis le bye week. Vraiment, depuis week 3, là, contre McGill, qui c'était notre pire game de l'année, dans des opportunités de plaqué, soit un running back, un porteur de ballon ou un corps arrière dans le backfield, a été défaillant. Donc, on est tombé en bye week la semaine d'après. Donc, les gars sont pas tannés, mais les gars, ils comprennent que 30% de nos drills sont investis dans des approches au plaqué. Mais écoute, nos petits gars sont tellement intelligents. Ils voient le film avec nous. Ils sont avec nous autres 7 jours sur 7. Puis, ils voient la même chose, les entraîneurs. On est sur la même page. La chimie est super bonne. Le respect et mon amour pour mes joueurs sont tellement hauts, ils sentent. On a vraiment une chimie super bonne malgré notre fiche. C'est ça qui est intéressant. Tu sais.
Parfait. Et puis je me demandais aussi, quand on s'apprête à affronter là, un corps arrière mobile comme Eloi, la tendresse que j'imballe, est-ce qu'il y a une préparation différente de la préparation habituelle ou on y va avec le même game plan?
Non. Il y a des approches différentes, effectivement. Surtout en pratique, tu sais, on prend nos meilleurs athlètes de l'équipe, puis on fait des drills avec eux, on donne le ballon à nos 2-3 meilleurs joueurs de l'équipe, puis on les laisse improviser. On fait vraiment des drills qu'on appelle scramble drill, parce que nos meilleurs athlètes prennent le ballon, improvisent, puis on travaille nos angles de poursuite contre un joueur qui est elusif. Fait que ça, oui, on a mis beaucoup de temps là-dessus avec que c'est pas notre carrière qui faisait le élite, qui faisait le remplaçant. Là. C'était vraiment. Cette semaine, on a pris un DP qui était vraiment, vraiment athlétique, puis il simulait qui était là, la tendresse. Donc, oui, c'est différent. Et le game plan aussi, je ne rentrerai pas en détail, évidemment, dans le game plan, mais c'est définitivement un game plan différent que si j'irais jouer l'Université de Laval, que le carrière Arnaud est un petit peu moins mobile qu'Eloi.
Oui, qui joue beaucoup plus dans la pocket. Que...
Oui, absolument. Mmh. Exactement.
Parfait. Puis ma dernière question, j'aimerais ça savoir comment vous continuez de motiver les gars justement après 6 défaites de suite, puis après une défaite crève-cœur quand même là, la semaine dernière.
Bien, premièrement, les victoires puis les défaites, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Quand tu es un joueur défensif, quand tu es un entraîneur défensif, ce que tu contrôles, c'est ta performance défensive. Mmh. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse affecter. Tu sais, je vois juste, c'est Julien.
Oui, exact.
Julien, contre Concordia, week 2, on mène par 4, fin de game. Puis c'est un joueur que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, qui a fait un gros boss en fin de game, qui a coûté un toucher. C'est quoi? Ce boss-là, un, j'y en veux pas, deux, je l'aime autant, trois, il start encore pour nous autres. il s'est amélioré, mais cette game-là, on fait pas ce boss-là, fort probablement, on la gagne. Et de un. Fait que la victoire et la défaite, ça ne tient qu'à un fil. Oui, trois après ça contre McGill, on perd par trois, on est dans leur territoire, on lance une balle, notre offensive lance une balle qui a un receveur, il glisse entre les mains, pongue son casque, lève d'un verre, interception, la game se finit de main. On s'entend-tu pour dire que c'est à un fil d'avoir gagné cette game-là?
Ouais, 100%.
Dernière game contre Concordia, on fait un stop de plus en third down, on gagne cette game-là. Fait qu'on est tellement proche de gagner des games, on focus tellement sur ce qu'on contrôle, on focus tellement sur la préparation mentale que, bon, je le file pas. Le 0-6, là, je ne le file pas. Moi, je file qu'on est une bonne équipe de football, on s'est concentré, Julien, cette semaine sur notre préparation et non pas sur notre fiche. Puis on se rallie. Définitivement que si on serait hors des séries présentement, ça aurait été plus dur de motiver les troupes. J'en suis conscient. On l'aurait fait quand même, évidemment. C'est notre travail. Mais par le fait que ce match-là est gigantesque ce soir, puis qu'on a joué quand même du bon football, oui, on a beaucoup de choses à travailler, mais on est conscient sur qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille, que le vibe est incroyable. Puis je le lève mon chapeau à mes petits gars. Mes joueurs sont insane. Ils restent motivés. Ils ont fait de l'extra, comme je t'ai dit tantôt. Je filme qu'on est en train d'aller jouer une grosse game de playoff. Fait que c'est même pas nous. Je me prends aucun crédit sur le fait que les gars sont motivés cette semaine. C'est vraiment venu de leur leadership à l'interne. Donc, j'apprécie ça énormément de mes joueurs.
Ouais, puis on peut voir aussi d'un œil extérieur, on est très proche, là. Tu sais, les récentes défaites qu'on a eues, c'est des défaites crève-cœur, soit par des jeux à dernière minute ou par justement quand on s'est fait remonter la semaine passée. Il en manque pas beaucoup.
Non, absolument. C'est des micro-détails que sur film, on les montre, on en parle, puis les joueurs sont 100% d'accord que c'est ces petits détails-là qui font les différences. Fait qu'on les travaille pendant la semaine. Fait qu'il n'y a pas de zone grise. Les gars, ils savent sur quoi qu'il faut qu'on travaille. C'est incroyable d'avoir une chimie comme ça à 0-6. Julien, j'ai pas vu ça. Ben, j'ai pas eu énormément de saisons à 0-6, mais c'est le meilleur vibe en carrière pour une saison tout de suite.
Wow, on est très content d'entendre ça. C'est ce qui va clore mon entrevue aujourd'hui, mais je tiens à vous souhaiter une très bonne chance. Pour ce soir, moi, je vais être là en espérant peut-être vous croiser et on va la chercher, celle-là.
Ça m'a fait plaisir, Julien, n'importe quand. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi.
Parfait. Merci, Guillaume, et bonne journée.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à toi aussi.
Merci, bye-bye. Au revoir. Donc, après avoir écouté cette entrevue-là, le coach s'est pas trompé. L'unité défensive de l'équipe a su supporter les propos de leur entraîneur, récoltant pas moins de 7 sacs du corps vendredi dernier, dont 2 sacs pour le jeune Édouard Boivin, sur le corps le plus mobile de tout leur RSEQ, qui est Éloi La Tendresse Régimbal. Donc, comme j'avais posé la question aux deux entraîneurs, est-ce qu'on allait avoir un game plan particulier pour un corps arrière, duquel on laisse beaucoup courir et comme le premier match contre McGill, Régimbald avait été cherché au-dessus de 100 verges au sol, ce qui est encore arrivé malheureusement vendredi dernier, mais pour une fois, on a été capable de finir nos plaqués, puis justement, faut croire que les heures et les heures supplémentaires de pratique passées sur le terrain pour l'équipe de football cette semaine à terminer les plaqués, à essayer de pour chasser un corps arrière mobile, un joueur élusif et très explosif. Et ben, le Varior est allé égaler sa marque de sacs total pour la saison en un seul match. Là, je crois qu'on avait 8 sacs au début de ce match-là et on est maintenant rendu avec 7 de plus. Donc, on va partir en pause et en revenant à la pause, je vais passer en revue les résultats de nos équipes du Varior. En plus de parler un petit peu du début de saison du Canadien de Montréal et de la semaine 6 dans la NFL. Donc, à tout de suite.
Et vous êtes de retour à Hors-jeu avec Julien Moslaner. Et pour cette deuxième partie d'émission, on va maintenant passer en revue les résultats de nos équipes du Vert et Or au courant de la fin de semaine et de la semaine dernière. On va commencer justement avec l'équipe de football parce que, wow, quel match vendredi dernier! Quel match! Donc, les heures supplémentaires sur le terrain la semaine dernière afin de peaufiner les jeux, on peut dire que c'est mission réussie pour les hommes de Kevin Reginbald. Enfin, à la fin de la première mi-temps, le corps arrière, Jérémy Fife, est victime d'un coup salaud à la tête, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, qui est donc le match sur une avance de 3-2. Un beau score de hockey, là. Entrée en relève de Fife, la recrue Samuel Goulet-Ménard, ancien porte-couleur des Fonteurs du cégep de Sherbrooke, prend les rênes dans un match des plus importants pour le Vert et Or, qui tente à tout prix là, de se qualifier pour les séries. Et ma foi, quelle performance de Samuel Goulet-Ménard. Ça fait déjà quelques semaines que j'en parle. Samuel Goulet-Ménard qui est sur le banc, alors que Jérémy Fife accumule les performances un peu pas très encourageantes, si je peux me permettre de dire, mais Goulet-Ménard est venu taire tout le monde et il est allé chercher pas un, pas deux, mais bien trois touchés en seulement une demi-complète. Donc, deux touchés par la passe et un touché au sol. En plus de ces touchés-là, ben, Goulet-Ménard a complété 21 de ses 27 passes pour un total de 227 verges, si je ne me trompe pas, 193. Et au sol, après ça, une très bonne performance aussi du Varior. Donc, Jonathan Martel-Joseph, encore une fois, qui était très présent. Le train, comme j'ai mentionné un peu la semaine passée aussi, là, les choses s'arrêtent pas. Et comme l'a mentionné le coordonnateur défensif, on avait besoin d'aller chercher une victoire de 4 points. Et le Varior est allé chercher, en double prolongation en plus, une victoire de 6 points. Donc, grâce à cette explosion offensive de la part du Vert et Or, en plus d'un énorme retour de beauté de 115 verges de Thomas Desrosiers, qui inscrit à ce même moment là, le deuxième plus long retour de beauté de l'histoire du RSEQ, le deuxième plus long depuis 2002. Un retour qui était électrisant pour l'avoir vu en live du stade Percival Molson. Très longue course, mais très élusif là, pour le jeune Thomas Desrosiers, c'était incroyable. Et c'est ce toucher-là qui a envoyé le Vert et Or et l'Université McGill en prolongation. Et justement, là, après un toucher du Vert et Or, un toucher de McGill, l'unité défensive du Vert et Or est venue provoquer un revirement lors de la deuxième possession offensive en prolongation de McGill. Et le Vert et Or récupère le ballon. Et c'est finalement Bruno Sénécal qui va attraper le ballon lancé par Samuel Goulet-Ménard et terminera sa course dans la zone des buts pour inscrire le toucher victorieux. Et le Vert et Or remporte le match par la marque de 30-24 et garde ainsi leurs espoirs de faire les séries en vie. Par contre, comme j'avais parlé avec l'entraîneur, là, c'est un scénario qui est tout de même improbable. Parce que le Vert et Or doit s'assurer d'une défaite de McGill lors de leur dernier match, en plus de gagner à domicile contre le Rouge et Or de l'Université Laval samedi, pas cette semaine, l'autre d'après, pendant la semaine de relâche, samedi le 26 octobre. Ça va être le match le plus important de la saison, mais en même temps, la dernière fois que le Vert et Or a gagné contre le Rouge et Or, c'était ici à Sherbrooke en 2022, si je me trompe pas. Donc, après une belle victoire comme ça du Vert et Or, je crois qu'on peut se permettre de rêver un petit peu et d'espérer avoir un match de série qui pourrait nous permettre d'allonger la saison de quelques semaines. Ça serait beau. C'est beau rêver aussi, sachant maintenant que Samuel Goulet-Ménard a pris les rênes de l'équipe. L'unité offensive est beaucoup moins prévisible. Samuel Goulet-Ménard est capable de lancer le ballon, il est capable de courir avec le ballon. C'est vraiment ça qui aurait pu faire la différence cette année. Et c'est ça qui a fait la différence en fin de semaine contre McGill. Ça et le travail défensif de l'unité défensive. Donc, par la suite, grâce à cette performance, Samuel Goulet-Ménard est l'athlète par excellence masculin de la semaine chez le Vert et Or. Mais passons maintenant au soccer.
Les équipes du Vert et Or avaient un programme double, eux aussi, en fin de semaine, mais ici à Sherbrooke pour le dernier match à domicile. Face aux Citadins de l'UQAM, l'équipe masculine s'est inclinée malheureusement par la marque de 2-1, et avec cette défaite, le Vert et Or se classe toujours au sixième rang du RSEQ. Il reste seulement un match là, pour les gars de Tony Perrier qui tenteront quand même de terminer leur saison du bon pied sur une note positive face aux Patriotes de l'UQTR le 18 octobre prochain. Aussi, face à l'UQAM, l'équipe féminine, quant à elle, s'est livrée un match sans issue, mais un match très serré, alors qu'elles sont allées chercher une partie nulle au score de 1-1 sur un but de Rosalie Ayotte. Il reste donc maintenant deux matchs à l'étranger, et avec des victoires, l'équipe féminine s'assurerait d'une place en série, et c'est très encourageant pour l'équipe de Tony Perrier, qui est l'entraîneur de l'équipe masculine et féminine. Donc au moins, avoir une équipe de soccer faire les séries, ça va rassurer les étudiants de l'Université de Sherbrooke, sachant que les filles en ce moment se classent au quatrième rang et qu'on est sur une très bonne séquence depuis quelques semaines. Ça va permettre à l'équipe féminine, justement, de rester sur un bon momentum et en espérant les voir gagner leur prochain match au courant de la septième semaine. Du côté du cross-country, maintenant, on va passer en revue les deux dernières compétitions. Donc, le 5 octobre dernier, Nolan Turgeon, qui s'est encore une fois démarqué, terminant deuxième aux 8 km, donnant une troisième place au classement pour l'équipe du Vert et Or. Par contre, samedi dernier, le 12, en fait, c'était l'Open Jean-Pierre Lemelin et l'équipe masculine a offert une incroyable performance, affichant pas moins de 3 athlètes dans le top 10, soit Félix Quirion qui a terminé en 3e position, Mathis Richard qui a terminé en 5e position et Vincent Troulier qui a terminé en 8e position. Du côté des femmes, donc lors de l'Open du 5 octobre, c'est Lauriane Heinemann qui a offert la meilleure performance en terminant au 14e rang. Cependant, trois autres athlètes de l'équipe complètent le top 25, soit Elsa Benhamou qui a terminé 20e, Anaïs Côté-Morin qui a terminé 21e et Juliette Bélanger qui a terminé 22e. Lors du dernier Open de samedi dernier, par contre, incroyable victoire de Laurence Gauthier qui a été élue athlète de la semaine du Vert et Or cette semaine. Et Gauthier partage cette fois-ci le top 10 avec sa coéquipière Lauriane Heinemann qui avait, quant à elle, terminé en 14e position lors de la dernière compétition. Donc, avant de passer au prochain segment, le segment des sports professionnels, on va aller en courte pause et on se retrouve après la pause sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici. Donc, de retour en ondes pour ce dernier 10 minutes d'émission et je vais parler maintenant du début de saison des Canadiens, faire un petit survol aussi ailleurs dans la Ligue nationale et on va passer en revue aussi les résultats de la semaine 6 dans la NFL car il y a eu un échange ce matin, mais on va y venir. Donc, début de saison du Canadien, 4 matchs déjà découlés, 2 victoires, 2 défaites. Deux grosses victoires, mais des défaites, des grosses défaites aussi. Donc, il y a Cole Caulfield qui affiche présentement une fiche de 4 buts en 4 matchs. Très bon début de saison pour le franc-tireur des Canadiens qui a pas le choix d'en faire plus, étant donné une certaine blessure à un autre franc-tireur de qualité du Canadien en Patrick Lane là, qu'on ne devrait pas voir avant les 2 prochains mois. Donc, un bon début de saison pour le Canadien, un mauvais début de saison pour le gardien auxiliaire qui est Kaden Primo, cependant. Mais un bon début de saison pour le gardien partant, Samuel Montembeau. J'ai un peu plus de misère à dire ça ce matin, sachant que les Canadiens ont perdu 6-3 hier, alors qu'on menait 3-2 là, avant le début de la troisième période. On l'a échappé ce match-là, c'est sûr et certain, mais encore une fois, Samuel Montembeau peut pas tout faire, là. Il a quand même reçu 30 tirs hier soir, il en a arrêté 35. On s'attend normalement à un meilleur match de Samuel Montembeau, là, surtout qu'il y avait un pourcentage d'efficacité de 0.986 avant le début du match hier. Donc hier, on a eu un pourcentage d'arrêt de 0.833. Donc on voit clairement que ça a été un match plus difficile hier pour Samuel Montembeau et les Canadiens. Donc le prochain match sera jeudi cette semaine contre les Islanders de New York. Ça va être l'occasion pour le Canadien de se relancer du bon pied, là, de partir une bonne séquence. Bon, en espérant voir Samuel Montembeau dans les buts, on va aussi voir les joueurs prendre leur aise au fil que les matchs avancent. Donc un Nick Suzuki plus confiant qui risque de trouver le fond du filet à plusieurs reprises, donc plus souvent. Faisons maintenant un tour ailleurs dans la LNH. Le meilleur marqueur de la saison dernière, le récipiendaire du trophée Maurice Roquette Richard, Austin Matthews, qui a toujours pas de points après 3 matchs en ce début de saison. Pas de but, pas de passe. C'est un début catastrophique pour les Maple Leafs de Toronto qui peuvent pas compter, ça a l'air, sur leur nouveau capitaine qui remplace, qui a volé le C, en fait, à John Tavares. Décision que je questionne beaucoup, sachant qu'Austin Matthews n'a pas l'air du meilleur leader, mais écoutez, je fais pas partie de l'organisation des Leafs, malheureusement. Mais tant mieux. Sinon, le début de la franchise du club de hockey de Utah se passe relativement bien. Dylan Gunter qui prend les choses en main avec 5 buts en 4 matchs jusqu'à présent. Donc un très bon début de saison pour Utah. Les fans doivent être très contents. La franchise de Utah qui vient de Phoenix, anciennement les Coyotes de Phoenix, anciennement les Coyotes de l'Arizona. Et finalement, Jack Eichel, qui est maintenant meilleur pointeur de la Ligue nationale après 3 matchs avec 1 but 5 passes. On se rappellera Jack Eichel qui avait été repêché par les Sabres de Buffalo. Un joueur avec un énorme potentiel qui a eu un début de carrière un peu plus silencieux, là, mais depuis son échange aux Golden Knights de Vegas, qui performe très bien. Maintenant, semaine 6 dans la NFL. Très gros échange qui vient d'être rendu officiel ce matin. Donc après avoir demandé d'être échangé la semaine dernière, le receveur étoile Davante Adams des Raiders de Las Vegas qui vient de passer aux Jets et qui retrouve coïncidemment son ancien carrière avec les Packers de Green Bay, Aaron Rodgers. Donc on va se demander si cet échange amenant Davante Adams aux Jets va aider Aaron Rodgers, surtout que les Jets viennent de passer 2-4 au Monday Night en prime time suite à une défaite contre les Bills hier soir. Donc les Jets qui affichent une fiche négative en plus d'avoir congédié leur entraîneur-chef Robert Saleh la semaine dernière. On va espérer que Davante soit la bougie d'allumage qu'Aaron Rodgers a besoin et qui va laisser un peu plus de place au jeune receveur Garrett Wilson sur le terrain qui est toujours la cible en fait de l'unité défensive de leurs adversaires, car Garrett Wilson est un des meilleurs receveurs de la NFL. Mais le corps des receveurs des Jets est pas assez, il était pas assez puissant en fait pour offrir plus de latitude à Wilson qui avait toujours 2 hommes sur lui. Donc maintenant, en ayant un receveur du calibre de Davante Adams, certainement que ça va donner plus d'opportunités à Garrett Wilson de se démarquer sur le terrain, mais ça va aussi donner plus d'opportunités à Aaron Rodgers de trouver son security blanket, si je peux me permettre de dire ça en anglais, ou plutôt son dépanneur en Davante Adams, qu'on se rappellera fait la pluie et le beau temps avec Aaron Rodgers à Green Bay dans le temps que Rodgers gagnait des MVP. Donc, va-t-on voir une saison calibre MVP pour Aaron Rodgers après cet échange? Ça me surprendrait. Mais tout de même, là, on peut s'attendre à ce que les Jets reprennent du poil de la bête et finissent par gagner des matchs. Sinon, gros duel au sommet entre les deux carrières les plus mobiles de la NFL, soit la recrue Jaden Daniels des Commanders de Washington et Lamar Jackson, le carrière des Ravens de Baltimore. Malheureusement pour moi et Jaden Daniels, c'est une défaite de 30-23, donc une seule possession séparant les deux équipes.
Mais les Commanders, qui passent maintenant une fiche de 4 victoires, 2 défaites, là, ont livré un sacré match. Ce fut tout un match là, entre Lamar Jackson et Jaden Daniels qui se sont échangés course après course, passe après passe. Jaden Daniels qui a réussi un très bon match. Un peu plus que Lamar Jackson, quant à moi, là, Jaden avait l'air beaucoup plus solide, mais encore une fois, Lamar est tellement illusif qu'il échappe à l'unité défensive de Commanders et qui finit toujours par récolter une course de 20-30 verges au moment où il devrait être arrêté. Donc, passons maintenant à Dallas. C'était l'anniversaire du propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, ce dimanche soir, et les Lions de Détroit qui sont venus gâcher son party de fête, mais gâcher sa fête sur une note incroyable en venant battre les Cowboys 47-9 pour le match prime time de dimanche soir. Incroyable match de la part des Lions et principalement des joueurs comme David Montgomery, des joueurs comme Jahmyr Gibbs et même un excellent match là, aussi de la part de Jared Goff qui a terminé ce match avec un très bon match là, en fait de la part de Jared Goff qui vont affronter les Vikings la semaine prochaine de Sam Darnold et Justin Jefferson. Donc on va voir si les Lions peuvent continuer leur très bonne série. Mais là on a beaucoup d'introspection à faire du côté des Cowboys là, après un écart de presque 40 points là avec leurs adversaires, 38 pour être précis. Clairement, Jerry Jones, le propriétaire, doit changer quelque chose parce que là, on vient de donner le contrat le plus lucratif de l'histoire à un carrière à Dak Prescott. Et Dak Prescott qui livre absolument pas la marchandise en ce début de saison. Et ça me fait penser un peu, pas à la même échelle, mais à un certain Deshaun Watson du côté des Browns à qui on avait donné un contrat fully guaranteed de 250 millions et qui en ce moment, les Browns sont incapables de gagner un match et on s'entête à continuer de donner les départs à Deshaun Watson alors qu'on a un corps arrière remplaçant Jameis Winston qui lance beaucoup d'interceptions, certes, mais qui balance le tout en lançant autant de touchés. C'est le genre de gars qui va lancer pour 400 verges avec 3 touchés, mais avec 3 interceptions aussi. Au moins, on met des points sur le tableau, chose qu'on est incapable de faire en ce moment du côté des Browns avec Deshaun Watson. Puis, rajoute par-dessus tout ça, les problèmes en cours qui sont toujours pas réglés, les problèmes légaux de Deshaun Watson qui traînent et qui traînent et qui traînent. Ça doit être dur sur un club, un club médiocre comme les Browns qui essaye depuis longtemps de devenir un club respectable, une organisation qui a des bonnes valeurs. Mais en allant chercher un joueur comme Deshaun Watson, tu viens de recommencer ce projet-là à zéro. Et en ce moment, les Browns qui trônent probablement au dernier rang de la NFL avec une victoire, 5 défaites. C'est un très mauvais début de saison. C'est sûr, ils ne sont pas les seuls. Les Jaguars ont un très mauvais début de saison aussi. Une autre organisation des plus médiocres de la NFL, avec les Panthers aussi de la Caroline, là, qui, je rappellerai, ont assis leur premier choix total l'année dernière, Bryce Young. Donc, semaine 7 qui va débuter jeudi. Ça va être une autre semaine, encore une fois, excitante à voir dans la NFL. Donc, cette fois-ci, les Chiefs, qui ne sont plus en bye week. Donc, pour les fans de Taylor Swift, Travis Kelce va affronter les 49ers de San Francisco et Christian McCaffrey cette semaine. Et sans oublier le match de jeudi qui opposera les Broncos de Denver avec leur coach Sean Payton, qui affrontera son ancien club, les Saints de la Nouvelle-Orléans, donc jeudi soir à 8h15. C'est ce qui va clore notre émission cette semaine. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Désolé de ne pas avoir pu vous proposer des collaborateurs, des chroniqueurs cette semaine, mais je vais me reprendre certainement la semaine prochaine. Alors, sur ce, on se dit bon après-midi et à la semaine prochaine, tout le monde.